Bonjour, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDIWA. Alors on est ravis de vous retrouver cette semaine pour parler d'astronomie avec nous. Et on est trois dans le studio, puisque c'est le grand retour de Pierrick.
Ouais, bonjour à tous.
Bienvenue Pierrick.
Merci.
Alors, on est ravis de vous retrouver. On vous rappelle que vous pouvez toujours écouter les émissions précédentes sur le podcast de l'émission, sur le site de RDIWA, rdwa.fr, émission thématique L'Étoile Polaire, avec les photos aussi du ciel prises par l'équipe, par Axel et Rémi. Et Rémi qu'on salue, hein, qui un jour reviendra. Hein, Rémi? Alors, vous pouvez aussi nous joindre sur le mail de l'émission astro-rdwa@protonmail.com si vous avez envie de nous poser des questions, de nous faire des remarques ou de venir dans la rubrique Nouvel Œil nous parler de votre rapport au ciel. Voilà, quelle qu'en soit la nature, nous sommes intéressés. Alors, c'est le 84e épisode de l'émission. Et le sommaire, alors ce sera pour commencer comme d'habitude le ciel ce soir. Ensuite, on aura quelques actus du monde de l'astronomie. Ensuite, ce sera la rubrique Abrac. Axel, cette semaine, tu vas nous parler d'une zone de silence radio aux États-Unis.
Ouais, une zone blanche, fédérale.
Zone blanche fédérale, ok. Et après la pause musicale, ce sera la rubrique astrale. Je vous parlerai cette semaine de spectroscopie et d'analyse de lumière des étoiles. Et on terminera cette émission avec une nouvelle rubrique, Pierrick, que tu nous proposes. Donc, ce sera la cosmo-mytho-rubrique. Tu vas nous parler donc des Pléiades et nous expliquer un petit peu aussi de quoi va traiter cette rubrique.
Oui, c'est un peu une introduction à ma cosmo-mytho-rubrique que je vais prolonger sur plusieurs émissions. Voilà.
C'est ton pilote.
Voilà, c'est mon pilote, exactement. Épisode 0.
Ça marche. Alors, on va commencer avec le ciel ce soir. Qu'est-ce qu'on peut voir quand le soleil se couche et que les étoiles s'allument? Eh bien, comme d'habitude, hein, la région circumpolaire qu'on voit toute l'année avec la grande ours, la petite ours Cassiopée. Là, ce qu'on voit, c'est qu'en ce moment, on a Cassiopée qui est assez haute dans le ciel. La grande ours et sous la grande ours, on a le lion aussi. Donc ça, c'est plus la zone circumpolaire, mais bon, en ce moment, on a vraiment, c'est le moment où on voit clairement où se trouve le lion, et on voit qu'il est vraiment juste en dessous de la grande ours. C'est vrai que le reste de l'année, sinon, on voit la grande ours qui est plutôt basse sur l'horizon, et on voit pas ce qu'il y a en dessous. Mais là, en ce moment, on a la chance de voir cette très belle constellation du lion. Donc on a aussi, comme Cassiopée est assez haute, on voit très bien Persée aussi. Et puis on a le Cocher, qui lui aussi du coup se retrouve assez haut dans le ciel, au-dessus d'Orion. Orion, très belle constellation, on a parlé maintes fois, qui est bien présente en début de soirée. Dans les alentours d'Orion, on va trouver le Taureau, qui n'est pas très loin. Et le Taureau, avec son étoile rouge, Aldébaran, levé du Taureau, et dans le Taureau, Jupiter. Alors Jupiter, toujours bien brillante, mais quand même, bon, on a encore le temps hein, de l'observer, mais elle commence à être déjà quasiment au zénith en début de soirée.
Oui, ouais, c'est ça. Ouais.
Donc il faut l'observer en première partie de nuit, et puis petit à petit, elle va se décaler. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va disparaître, mais ce n'est pas tout de suite. Encore un peu le temps.
On a quelques semaines, quelques mois.
Ouais. Ouais, quelques ouais. mois. Je ne sais pas si cet été, on pourra encore la voir.
Ouais, c'est très, très tard.
Ouais. Pas évident. Ouais. On verra ça. En tout cas, là, c'est toujours possible. En ce moment, il y a Vénus qui est toujours très brillante le soir, mais qui commence à se rapprocher du Soleil. Donc, à partir de la moitié du mois de mars, elle disparaîtra derrière l'horizon. On ne pourra plus la voir. Mais là, en ce moment, là, vraiment au coucher du soleil, vous avez ce grand phare de Vénus qui est là, avec le Jupiter un peu plus, enfin, au zénith quasiment. Et puis, si vous continuez vers l'est, on trouve les Gémeaux avec la planète Mars, bien rouge aussi, pas très grande, un diamètre apparent qui est pas énorme, qui est en train de diminuer, son éclat aussi est en train de diminuer, mais elle est là. On a ces trois planètes bien visibles dans le ciel. Voilà un peu pour cette zone. Si on repart d'Orion, donc quand même très repérable dans le ciel, tu disais, Axel, comme un sablier. avec les trois étoiles là, qui forment la ceinture du baudrier d'Orion. Et qu'on les prolonge, on tombe sur Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, dans Le Grand Chien. Au-dessus, on a Procyon. Procyon, j'ai toujours eu l'impression que c'était une fausse Sirius, une espèce de palimitatrice qui est dans Le Petit Chien. Voilà un peu pour cette zone, en tout cas en début de soirée. Ensuite, quand la nuit va commencer à avancer, eh bien, tout ça va tourner et vont se lever d'autres constellations. Donc après les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a derrière les Gémeaux? Vous ne savez pas, ben alors.
Derrière les Gémeaux?
Non, moi le zodiaque, je ne maîtrise pas.
En tout cas, eh bien, on a les Gémeaux. Je sais pas. En tout cas, le Lion. Il est là, d'accord. Mais on a aussi la Vierge qui apparaît au bout d'un moment. Et, parce que pareil, avec la Grande Ourse, en fait, qui est assez haute, vous avez le Lion qui est en dessous. Mais oui, après le Lion, c'est la Vierge.
Ouais, c'est ça.
Et donc, vous voyez surtout une étoile bien brillante qui est Spica, l'épi dans la Vierge. Arcturus aussi, dans le Bouvier, hein, puisque on l'avait déjà dit, qui sort assez vite, en fait. On a tout le triangle d'été qui se lève, en fait, en deuxième partie de nuit. Enfin, on l'avait déjà mentionné dans les émissions précédentes. Et voilà, donc on va retrouver Vega, Deneb, Altaïr. On a le dragon aussi, du coup, qui est dans une position assez étonnante, je trouve. Hein, puisque la tête du dragon, en fait... le dragon, lui, il est dans la zone circumpolaire, puisqu'il serpente entre la Grande et la Petite Ourse, mais sa tête revient vers Vega. Donc, quand le triangle d'été
est caché sous l'horizon.
Le dragon, lui, il n'est jamais caché.
Oui, non, ça...
Mais Vega, ça veut dire que Vega est jamais bien loin, en fait. Quoi. Mmh. Mais du coup, ça fait une zone en fait, où le dragon est assez bas en ce moment.
Oui, c'est vrai.
Par rapport à d'autres moments de l'année. Voilà un peu. Et l'autre soir, j'ai eu le plaisir de voir, alors vers 4h du matin, vous avez, 4h, 5h, vous avez le scorpion qui se lève aussi. Et donc, qui vient après la Vierge. Alors, on n'en est pas encore à voir le Sagittaire, mais ça va arriver petit à petit. Mais ça m'a étonné, quoi. J'avais pas de voir cette constellation qu'on a plutôt l'habitude de voir quand même l'été.
Début d'été, ouais.
De la voir là, vraiment belle, assez... à 4h du matin. Voilà pour ce tour du ciel. Est-ce que vous avez d'autres...
Moi, je me rappelle de Vénus qui commençait à se lever, c'était en novembre. Et que maintenant, elle commence à disparaître. Mmh. Donc, tu vois, en 6 mois, elle a fait un petit chemin et ouf, elle repart. Voilà, c'était juste...
une petite observation.
Ouais.
Je peux mentionner des beaux passages de l'ISS à venir à partir de la première diffusion de cette émission, mais aussi après la seconde, puisque à partir du 11 mars, on va la voir à 21h, mais... plutôt à 20h, en fait, entre 19h30 et 20h, pendant presque 2 semaines, avec son plus beau passage, mercredi 12, où elle va briller d'une magnitude moins 4, ce qui est quand même très brillant, plus brillant que la plus brillante des étoiles. Et voilà, donc si vous voyez une étoile qui bouge à ce moment-là, en début de soirée, un peu après la tombée de la nuit, eh bien c'est la Station Spatiale Internationale.
Ça passe vite, quoi. Il faut être
au bon moment. Selon son élévation dans le ciel, si elle passe vraiment au-dessus de nous, ça peut durer 6 minutes, son passage.
Ah oui.
Si c'est un peu plus bas, un peu plus près de l'horizon, là, ça réduit en conséquence. Ça peut être qu'une minute. Ouais.
Est-ce qu'elle a une espèce de flash où elle brille constamment?
Non, c'est une lueur constante qui progresse, qui avance.
Mmh.
Voilà.
Mais merci. Alors, on va faire un peu pour faire la transition avec les actualités, on va quand même mentionner l'arrivée de l'équinoxe de printemps qui aura lieu le 20 mars, donc le moment où on a 12 heures de jour et 12 heures de nuit, exactement.
Et le moment où le jour reprend du terrain sur la nuit.
Et ensuite, à partir du 21 mars, effectivement, les jours deviennent plus longs que les nuits. Et c'est l'arrivée officielle du printemps.
Ah, ça me fait plaisir.
Voilà, pour ce petit début d'actu. Moi, j'avais envie juste de mentionner Ariane 6. Alors, au moment où on enregistre l'émission, en fait, elle aurait dû décoller et emmener en orbite un satellite militaire français, d'ailleurs. Mais ça n'a pas eu lieu. Le tir a été reporté en raison en fait de problèmes. Alors non pas sur la fusée, mais sur le pas de tir. J'ai pas les détails. Voilà. En tout cas, il y a toute une dimension un petit peu politique par rapport à ce lancement, puisqu'en fait l'idée là, c'est clairement d'avoir en fait un accès à l'espace depuis l'Europe. Et d'avoir une espèce d'autonomie par rapport à ça.
Qu'on n'a plus depuis la fin d'Ariane 5. Si, pour les charges, pour les petites charges et les fusées Vega. Mais pour les grosses charges, pour les gros satellites,
ouais, y avait plus.
On n'avait plus rien.
Donc là, voilà, c'est un peu ça leur idée. C'est de pouvoir le faire. Alors, dans le contexte international, c'est une petite résonance un peu politique, ce truc-là. Et par contre, j'entendais qu'il y avait quand même un impact sur les alentours et sur les activités agricoles ou de pêche, etc., où en fait, pendant plusieurs jours avant ou après le lancement, la pêche va être interdite, etc., pour pas qu'il y ait de bateaux qui traînent autour. Bon, j'ai pas exactement les thèmes, il y a toute une idée de périmètre de sécurité à la fois spatiale et temporelle. Et donc, il y a des gens qui râlent un peu en disant « Nous, vous êtes bien gentils avec vos fusées, mais en fait, on ne peut pas bosser, on ne peut pas... » Alors, il y a quand même un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils vont lancer donc le lanceur Ariane 6, en fait. On avait déjà mentionné le fait que SpaceX réutilisait les éléments des lanceurs. Et là, Ariane 6 essaye d'en réutiliser, mais en fait, le fait beaucoup moins. Et donc, en particulier, tout ce qui est réservoir de carburant, etc., va juste tomber dans la mer. Et alors là, quand même, je les ai trouvés assez forts, les propagandistes de l'Agence spatiale européenne, parce qu'ils disent qu'il ne faut pas s'inquiéter en fait, de la retombée de ces gros réservoirs en métal dans la mer, que ça va faire une espèce de barrière de corail artificielle dans laquelle la vie va pouvoir se développer. Enfin, bon, bref. Voilà le genre de commentaires auxquels on a droit. En tout cas, à suivre, c'est le début donc de Ariane 6, donc qui a fait un vol réussi l'année dernière.
Ouais, un vol d'essai.
Un vol d'essai. Mais surtout, en fait, de cette nouvelle nouveau site de lancement, en fait.
Oui.
Toujours en Guyane.
Oui, oui.
Ouais, oui.
Oui, c'est toujours en Guyane.
C'est un nouveau pas de tir.
Il fallait un nouveau pas de tir pour cette nouvelle fusée plus lourde que la précédente. Enfin, des aménagements, en tout cas. Je ne sais pas s'ils ont tout repris à zéro, mais...
Donc voilà pour cette affaire. Axel, tu avais une autre actu à donner ou pas ?
Ben oui, parce que tu nous parlais dans la dernière émission de l'astéroïde YKR 2024, je crois que c'est ça son nom, qui peut être éventuellement, sur un malentendu, menacé de s'écraser sur Terre en décembre 2032. Alors, il y a d'autres calculs qui ont été réalisés, et la probabilité de l'impact, qui était initialement de 2, quelque chose, qui était monté ensuite à 3, quelque chose, eh bien, il est maintenant de 0,0001%.
Voilà.
Ouf. On l'a chapé belle.
Tout ça pour
donc
ça.
Là encore, mais, les effets d'annonce... Fait, ouais.
Oui, mais maintenant, il y a quelques chances que ce caillou s'écrase sur la Lune.
Ah,
ah ouais.
Une autre aspect.
Il y a 2% de chances qu'il s'écrase sur la Lune.
Ouais, je sais pas ce que c'est le pourcentage... Alors, si ça s'écrase sur la Lune, ça n'a pas beaucoup de...
Il ne va pas se passer grand-chose, voilà. Ça va faire un cratère. Et puis voilà.
Ouais, ça fera un nouveau cratère. Peut-être, si ça tombe de nuit, ça pourrait faire un flash qu'on pourrait voir à l'œil nu sur la Lune.
Mmh.
Mais bon, comme la dernière fois, je vous dirais d'attendre un peu, parce qu'en 2028, il y aura un nouveau passage à proximité de cet astéroïde. Et pendant ce nouveau passage, les scientifiques pourront affiner leur prévision de trajectoire. Voilà. Wait and see.
OK.
Et on attend toujours cette supernova. Non, c'est pas une supernova qui doit exploser dans la couronne boréale.
Nova, ouais, on l'a pas vu. Donc là, c'est échec d'ailleurs. Ça m'était sorti de la tête.
Pas moi, mais c'est vrai qu'il. Non, il y a rien eu.
On la voit en plus la couronne en ce moment. Ouais. On l'a dit. Hein, c'est en fait, elle vient après Arcturus là, en remontant, on trouve la couronne. Non, pas de nova.
Ouais, j'irai voir ce qu'ils en disent. Ouais.
On va chercher, on vous dira. Ok, on va passer donc à la rubrique à Brac. Axel, tu vas nous parler de cette zone de silence radio aux États-Unis. Ils ne peuvent pas faire des zones de silence radio comme nous. C'est différent. C'est fédéral.
Ouais, c'est la National Radio Quiet Zone, la NRQZ. Dans notre belle langue, ça donne donc la zone de silence radio nationale des États-Unis. Alors, c'est une zone, comme son nom l'indique, où l'émission d'ondes radio artificielles est très limitée et qui a été créée en 1958. Alors, si vous voulez une idée de la taille de cette NRQZ, sachez que c'est quand même très vaste. Vous savez, aux États-Unis, ils ont de la place. Elle s'étend sur 33 000 km², soit un carré de plus de 180 km de côté. Ça fait plus que la taille de la Belgique, en gros. Mmh. Je vous dis qu'ils ont de la place. Elle se situe entre les deux états de Virginie, donc la Virginie occidentale, hein, celle de la chanson « Take me home, West Virginia ah », oui. Et la Virginie normale. Elle ne s'appelle pas orientale, c'est Virginie et Virginie de l'Ouest. Il y a un tout petit bout de la NRQZ qui touche le Maryland, mais c'est vraiment quelques kilomètres. Alors pourquoi ce choix de préserver tout cet espace des ondes électromagnétiques ? Bah, vous l'aurez sans doute vu venir, hein, puisque vous êtes à l'écoute de l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie sur Radio Diwa. Au centre de la NRQZ, deux observatoires, le Green Bank Observatory et le Sugar Grove Station, qui comptabilisent à eux deux 11 télescopes, dont le plus grand radiotélescope, le plus grand radiotélescope orientable du monde, à Green Bank. Ces deux observatoires qui scrutent l'univers, non pas grâce à la lumière visible, mais grâce aux ondes radio. Et c'est donc pour éviter les interférences que ce périmètre a été établi. Alors la question qui vient, c'est de savoir le nombre d'habitants touchés par cette mesure et ces restrictions. Et ben, on pourrait dire que c'est assez faible finalement par rapport à la population des États-Unis. Mais bon, on parle quand même d'environ 260 000 habitants au total, et 8 000 dans les parties les plus restrictives, parce qu'on va voir que c'est découpé en plusieurs zones. Il faut compter aussi une station de ski à Snowshoe, qui attire pas loin de 500 000 skieurs chaque année, et également une portion des terrains de l'Université de Virginie. Alors, à noter qu'il y a quelques exceptions aux restrictions d'émissions radio dans cette zone, bien sûr pour les services de secours, police, pompiers et autres. La CB est autorisée. J'imagine que, étant donné que c'est limité à une petite plage de fréquence, c'est pas gênant ou c'est pas chiant à exclure des observations, enfin des mesures. Voilà. Alors, comme je disais, elle est composée de plusieurs zones, avec de plus en plus de restrictions au fur et à mesure qu'on se rapproche des observatoires. Alors, la plus grande zone, la télé hertzienne, y est interdite. Si vous tenez absolument à regarder la télé, ce sera soit par câble, soit par satellite. Les émissions omnidirectionnelles sont interdites. Autrement dit, donc pour la faire simple, si vous voulez téléphoner à quelqu'un, il faut que l'un comme l'autre, vous visiez avec vos antennes. Nous, nos téléphones, c'est des antennes omnidirectionnelles, c'est-à-dire ça envoie de partout. Et puis s'il y a une antenne relais pas loin, dans n'importe quelle direction, paf, on a le réseau, ça capte, et ainsi de suite. Alors que là, c'est directionnel, donc il faut voir l'antenne relais, il faut pointer ton antenne de téléphone vers l'antenne relais pour pouvoir téléphoner.
Mais c'est des téléphones spéciaux.
Oui, oui, du coup. Ensuite, il y a une zone à 32 km de rayon des observatoires. Là, le Wi-Fi est interdit. Les enceintes Bluetooth, pareil. Les téléphones fixes, enfin les téléphones doivent être fixes, plus de téléphones portables. Et les téléphones fixes doivent être filaires.
Ouais,
c'est pas le combiné, voilà, c'est pareil. Bien sûr, les fours micro-ondes, pareil, interdit. Parce que ça me rappelle une petite anecdote devenue célèbre dans le monde de l'astronomie. Ça se passe en Australie, à l'observatoire de Parkes, où pendant plus de 17 ans, on enregistrait régulièrement un signal radio très court, à peine quelques millisecondes. Alors on étudiait déjà les FRB, les Fast Radio Bursts, les sursauts radio rapides, mais on a toujours pu les localiser dans l'espace. Et puis en plus, d'autres observatoires faisaient l'observation en simultané. Mais pas pour le signal à Parkes. C'était le seul au monde à capter ça. Alors on a bien sûr pensé à un problème technique de détection, et après avoir vu et revu tout le matériel, bon, c'était pas concluant. Jusqu'au jour où Émilie Petrov décide de braquer un détecteur radio sur l'observatoire même. Et c'est là que petit à petit, elle est arrivée à préciser le lieu d'émission de ce signal, et qui n'était pas du tout spatial, puisqu'il venait de la cantine de l'observatoire. Et là, alors la réponse qui fut vite trouvée derrière, c'était le micro-ondes de la cantine, qui était ouvert pendant qu'il tournait. hein, comme vous faites peut-être. En tout cas, moi, ça a dû m'arriver avant d'entendre parler de cette affaire. On n'attend pas la fin.
Il
n'y a pas encore eu le ding. Ouais. Hop, tu ouvres la porte, ça s'arrête parce qu'il y a une sécurité. Mais à ce moment-là, une infime et très brève émission d'ondes électromagnétiques peut s'enfuir. Alors, bon, alors décharge, bien sûr, le télescope, il était braqué vers le ciel et pas vers la cantine, d'où le fait qu'ils n'aient pas cherché là directement. Mais il existe un phénomène que je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui, mais qu'on pourrait dire de résonance un peu, qui fait qu'un télescope radio, il capte légèrement aussi ce qui se passe dans son dos, pas très loin. Voilà. Bon, alors revenons à nos moutons avec la dernière zone, encore plus restrictive. Là, on est à 16 km de rayon des observatoires. Là, c'est simple, presque tout est interdit, même les véhicules à essence. Et oui, parce que dans un moteur essence, il y a une bougie qui fait des étincelles et au passage, ça émet un peu d'onde. Donc uniquement du diesel. Bon, ça vaut pour les véhicules, mais pour les groupes électrogènes éventuellement.
Il faut des tronçonneuses à diesel, des débroussailleuses diesel.
Ou électriques.
Peut-être pas non plus.
Ah non, parce qu'il y a des cairns alternateurs.
Ouais, ça va faire aussi. Ah non, ben voilà, on coupe pas d'arbres là-bas.
Ouais, c'est super sauvage en fait. Comment ils font pour entretenir?
Alors, il y a des trucs plus surprenants, peut-être. Les appareils photo numériques sont interdits à proximité de l'observatoire. L'argentique, c'est bon, mais le numérique, non, je ne sais pas exactement pourquoi. Certains aspirateurs aussi.
Certains, pas tous.
Ouais.
Ça dépend du fonctionnement. Si tu as des prothèses auditives, hein, des sonotones, ça marche ou pas ça?
Ouais, je pense. Ouais, parce que les aspirateurs, moi, dans une ancienne vie, hein, j'étais réparateur d'ordi, et on m'a toujours dit de ne pas utiliser d'aspirateur pour se débarrasser de la poussière dans les tours d'ordi. Ça fait assez de champs électromagnétiques pour griller certains composants par induction. Ouais, j'utilise des soufflettes, mais pas des aspirateurs.
C'est vrai?
Ah ouais.
C'est pour ça que j'ai grillé plein d'ordi dans ma vie.
Alors bon, depuis tout à l'heure, je vous parle d'interdiction, mais en vrai, il y a assez peu de répression derrière tout ça. Il y a bien des 4x4 qui patrouillent pour détecter des sources d'émissions électromagnétiques, des interférences. Ils sont assez marrants à voir, d'ailleurs, ces 4x4. On dirait la voiture des Ghostbusters, là. Enfin, c'est plein d'antennes dessus. Voilà. Mais bon, si vous chopez la main dans le sac, au pire, vous avez une amende de $50. Et en fait, la police de l'observatoire fait surtout de la médiation, de la négociation, et elle va accompagner les gens dans la recherche de solutions. Enfin, voilà. Y a des dérogations, si tu peux demander, peut-être pour la tronçonneuse, voilà, dire est-ce qu'aujourd'hui, à telle heure, donnez-moi un créneau où je peux utiliser ma tronçonneuse et voilà, tu peux t'arranger avec l'observatoire pour tomber à un moment où...
Mais il y a beaucoup d'habitants, là, dans la dernière zone.
8 000.
Ouais. Ah oui, quand même.
Ah, y a une petite ville, quand même, avec toutes les infrastructures, avec une clinique, avec un supermarché.
Mais il n'y a pas de téléphone dans cette zone, du coup. C'est
pas,
ça,
pas mobile.
Mais que des filaires, ouais. Comme à l'ancienne, quoi.
Et oui, c'est ça. Alors voilà, du coup, c'est assez plébiscité par une partie d'une population qui a envie de vivre un peu comme avant.
C'est ce que je me dis aussi. Ouais, de soit ça, soit aussi les gens qui se disent électrosensibles.
Ouais.
Ça doit attirer peut-être même des gens, en fait.
Ah oui, mais même en tourisme, il y a un hôtel dédié qui fait toute sa pub sur l'électrosensibilité. Ouais. Et puis des gens qui veulent vivre un peu comme avant. Sans téléphone pour faire GPS, qui utilise des cartes papier pour s'orienter. Dans le supermarché, il y a sur les tapis roulants des caisses, les gens mettent des autocollants avec des messages pour leur famille ou quoi. Parce que tout le monde passe par là. Donc, tu dis, je fais une soirée tel jour, Bernard, t'es invité. Tu laisses ça au supermarché. Enfin, bon.
Ah oui, des petites annonces comme mots, ça. Ouais. Ah oui, oui quand j'étais petit, je laissais des mots sur ma table pour mes parents.
Il y a des cabines téléphoniques encore.
Ah oui. Ils sont forts, ces Américains.
Voilà, alors... j'en étais où Ouais, donc la police qui fait de la négociation, et c'est vraiment si vous êtes trop récalcitrant qu'ils engageront des vraies poursuites. Et puis, bon, d'ailleurs, petit à petit, les gens sont de moins en moins coopérants. Il y a une habitante de Green Bank qui témoigne que son voisin émettait du Wi-Fi avec sa box Internet. Hein. Et en bon provocateur, il avait appelé son réseau Wi-Fi « Va te faire foutre, l'observatoire ». Voilà ce que j'avais à vous dire sur la National Radio Quiet Zone. En gros.
Eh ben merci. Mais ouais, en France, on n'a pas trop ce genre de... Je pense, il y avait par exemple à Nancy, il y avait un gros radiotélescope.
Si, ouais, il y a un radiotélescope.
Mais je ne crois pas qu'il y avait des... Enfin, en même temps, je ne sais pas s'il fonctionne encore vraiment beaucoup, parce que c'était, question, c'était déjà... ça fait un moment, un radiotélescope de Nancy, il n'est pas vraiment à la pointe de la technologie moderne.
Ouais. Après, peut-être que ça dépend ce qu'ils étudient aussi. Mmh. Ça dépend des fréquences. Il y a des choses à étudier dans l'espace qui touchent à des fréquences qu'on n'utilise pas en artificiel. Ça peut être ça aussi une réponse.
Et les télescopes, là, ils sont que en radio.
Ouais, c'est 11 de radiotélescopes.
Okay.
Mais bon, tu dis que c'est quand même le plus gros radiotélescope orientable du monde. Mmh. Donc il y a peut-être aussi une question de sensibilité, quoi, tout simplement. Ok, d'accord. Mais j'aurais pas pensé que c'est un impact comme ça aussi grand sur la population autour. Quoi.
Mais c'est que pour observer les étoiles ou c'est pour faire un peu de l'espionnage ou...
Alors il y avait deux observatoires ou réseaux de communication militaire. Un de la Navy mais qui a fermé en 2016 et il en reste un de je ne sais plus quel corps de l'armée qui est aussi compris dans cette protection. Et...
Ah oui.
Mais bon, peut-être pas assez apparemment pour qu'il y ait une réelle répression, comme je disais, qui soit mise en branle.
Oui, ou peut-être que juste si c'est un petit peu, ça va, mais si tout le monde le faisait, ça irait plus. Mais...
C'est ça.
Ok, et bien on va passer à la pause musicale. Donc cette semaine, c'est un morceau du groupe Altingun qui s'appelle Gokadonia.
Hommage à la Turquie.
Et bon retour dans l'Étoile polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDIWA. Alors, on va continuer cette émission avec la rubrique astrale. Et cette semaine, je vais vous parler de spectroscopie.
C'est nouveau, ça, la rubrique astrale, Fred ?
C'est... Le nom est nouveau.
Le nom est nouveau ?
Enfin, vous, ça fait qu'un petit moment déjà, mais ouais. C'est, avant, c'était point d'astro.
Ouais.
Enfin, ouais. Maintenant, maintenant, c'est rubrique astrale.
Ah, okay, ouais. Okay.
Mais sinon, c'est la même chose.
Non, c'est bien, un peu de changement, c'est très bien.
Voilà, je te remercie de faire la remarque pour les auditeurs. Alors, la spectroscopie ou spectrométrie, j'avais envie de parler de ça parce que là, j'avais parlé pas mal des redshifts, de tout ça. Enfin bon, c'est une thématique quand même, l'analyse de la lumière qui revient tout le temps en astronomie. Et on pourrait dire un peu que la lumière, c'est un peu la matière brute de l'astronome. En fait, l'astronome, qu'est-ce qu'il étudie ? Il étudie le ciel, mais les objets du ciel. Mais le seul vecteur qu'on ait, en fait, de tous ces objets, que ce soit des galaxies ou des étoiles, eh bien, c'est la lumière qu'on en reçoit. Et là, c'est ça qu'on analyse. C'est pour ça aussi que l'analyse de la lumière, c'est aussi important en astronomie, parce qu'en fait, on ne fait que ça, au final. Alors cette lumière, on l'a déjà dit, hein, c'est pas juste le visible, il y a toutes les longueurs d'onde, donc il faut rajouter les infrarouges, les ultraviolets, les rayons X, les rayons gamma, et comme tu l'as dit aussi Axel, les ondes radio. Et en particulier, on l'a déjà mentionné, mais on a beaucoup d'objets qui émettent dans des longueurs d'onde de type visible ou... et qui, en fait, à cause des décalages vers le rouge, des redshifts, en fait, se retrouvent à être détectés en radio.
Ouais.
Donc ça, c'est en fait, la radioastronomie, elle sert aussi beaucoup pour l'étude du ciel très, très, très profond, en fait, des objets très lointains. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais un peu envie de développer un peu plus. L'idée, en fait, de la spectroscopie, ben, c'est de faire un spectre, le spectre de la lumière. Alors, le spectre, c'est quoi ? C'est l'analyse de cette lumière, l'analyse des différentes longueurs d'onde qui la constituent. Alors, je vais commencer par faire un peu une sorte d'historique de cette notion, puisque l'idée que, en fait, l'idée de disperser la lumière, ça date de 1311.
Oui.
1311...
Je croyais que c'était Newton qui...
Eh bien non.
Newton, il a compris que l'arc-en-ciel, c'était le blanc, c'était la somme.
Je vais y venir, ouais, mais c'est pas Newton qui a découvert ça, en fait. Donc, 1311, j'ai oublié de noter le nom, c'est pas grave, mais c'est quelqu'un qui, en fait, a décrit la dispersion de la lumière donc par un dioptre épais. Alors, en optique, ce qu'on appelle un dioptre, ouais, en gros, c'est une lentille, c'est un objet transparent et un peu épais, quoi. Voilà.
Donc, une bouteille.
Donc là, par exemple, une bouteille. Et là, en l'occurrence, les premières observations qu'il a fait, c'est sur ce qu'on appelait des urinaux. Donc, en gros, c'est dans les hôpitaux, c'était des récipients en verre dans lesquels les malades urinaient. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'en observant le soleil à travers ça, ça faisait des petits arcs-en-ciel. Non, mais c'est bon. Ça a commencé comme ça, donc en 1311. Eh oui.
C'est beau, hein.
Et donc, à partir de là, en fait, en particulier à partir des années 1500, en fait, les dioptres étaient des objets de curiosité qu'on pouvait acheter dans les foires.
Ouais, c'est ça.
C'est un truc
amusant.
Ça faisait des petits arcs-en-ciel et donc c'était joli.
Ah oui, mais c'était taillé, quoi. Fait pour.
Ouais, plus ou moins. Mais de toute façon, ils n'avaient aucune notion des lois d'optique ou de quoi ce soit. C'était juste qu'ils avaient vu que quand tu prends un truc un peu bombé, enfin n'importe quoi, un peu en verre, un peu transparent, ça fait des petits arcs-en-ciel. Donc c'est joli, donc c'est chouette. Et voilà, on peut acheter ça dans les foires.
D'accord.
Et il faut attendre Newton, effectivement. Donc là, en 1666... mais en fait, parce qu'au début, il a une sorte d'amusement. Enfin, ça l'amuse, ce truc-là.
Ouais,
il dit, tiens, et puis bon, c'est quand même Newton, donc il cogite des trucs. Il se dit, il a envie d'étudier ça.
Il était confiné, en plus. Non, c'est vrai. Depuis des midrages de peste. Et il était confiné chez lui.
Ouais, comme quoi, confinement, ça a du bon. Ouais. Et donc, il achète un prisme triangulaire. Et il fait ses expériences. Alors là, bon, bah, le prisme, hein, c'est un peu, on se rappelle la pochette de Dark Side of the Moon, hein, des Pink Floyd, c'est vraiment ça. On a ce triangle en vert, et puis ça fait un arc-en-ciel. Donc sur le mur, on peut projeter ces lumières. Et donc découper ce qu'on appelle la lumière blanche. Alors là où c'est intéressant, parce qu'il a quand même, prouvé, Newton, que oui. C'était pas le prisme lui-même voilà. qui créait ces couleurs.
C'est là que c'est vrai,
déjà un point de départ hyper important, en fait. C'est de dire, non, en fait, ces couleurs, elles sont contenues dans ce qu'on appelle la lumière blanche. C'est la lumière du soleil, en fait. Bah, à l'époque, il n'y avait pas de lumière électrique, il y avait les bougies ou le soleil, voilà. Éventuellement la lune.
Est-ce que la lumière d'une bougie et la lumière du soleil sont la même?
Pas tout à fait, non.
Non, non, justement, en spectroscopie, tu montres à un physicien qui s'y connaît un spectrographe du soleil ou d'une bougie, il peut te dire, ça c'est une bougie, et ça c'est le soleil.
Oui, puis il peut même te dire quelle est la composition chimique de la paraffine et de tout ça. Donc lui, il n'en était pas là, Newton. Justement, non. C'est un peu cette historique-là que je retrace.
Oui, lui, il s'est arrêté là même, en fait.
Il s'est arrêté là.
Enfin, il n'a pas découvert les raies d'absorption, alors qu'il aurait pu. Il n'était pas loin, mais il n'a pas fait ça.
On n'en est pas encore là. Le lien entre chimie et optique, il vient 200 ans plus tard, quasiment. Voilà.
Quoi. Ah, non, lui, il a juste démontré.
Je me demande si ce n'est pas lui qui a quand même découvert les infrarouges. C'est-à-dire, justement, en observant, en fait, ce serait à vérifier. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui faisait, en fait, une expérience de prisme et qui s'est rendu compte, en fait, qu'en mettant son thermomètre après le rouge, c'est là que ça montait en température. Et donc, il y avait un rayonnement qu'on ne pouvait pas voir, mais qui était responsable de la chaleur.
Je crois pas que ce soit lui.
C'est peut-être pas lui, mais en tout cas, c'est des expériences qui sont assez anciennes, ça. Alors ensuite, justement, autour des années 1700, il y a toute une pratique qui se développe, qui est justement de l'étude des couleurs de flamme. Donc ils se rendent bien compte, par exemple, que quand on brûle certains sels ou alors des petits morceaux de métaux dans la flamme, en fait, ça a modifié la couleur du feu et qu'en fait, ça fait des spectres différents. Donc, il commence à naître cette idée qu'il y a un lien entre la chimie, donc ce qui est responsable en fait de l'émission de cette lumière, et la lumière elle-même. Parce que ce n'est pas forcément intuitif. Ça.
Ouais, entre matière et lumière.
Ce n'est pas forcément clair, cette affaire-là. Et donc, c'est en 1800, là, c'est Fraunhofer. Alors, Fraunhofer, lui, il a changé, enfin, il a surtout l'avancée majeure qu'il a donnée, c'est qu'il a arrêté d'utiliser des prismes pour, lui, utiliser le phénomène de diffraction. Alors la diffraction, en gros, c'est quand la lumière, elle passe à travers une fente très fine. En fait, ça va aussi, et si on met plusieurs fentes comme ça, en fait, ça va disperser la lumière de la même façon. Ça va avoir le même effet optique qu'un prisme. Donc, il se met à construire ce qu'on appelle un réseau de diffraction. Donc ça, on en trouve... c'est ça qu'on utilise maintenant pour faire des spectres. Et ça, on peut même en acheter hein, dans des petites boutiques. C'est aussi un des trucs d'amusement. Là, c'est comme vous pouvez trouver des espèces de petites, comme une petite diapositive. Et vous ne voyez pas qu'il y a des fentes, parce qu'elles sont vraiment micrométriques, en fait. Et vous pouvez en avoir 10 000 traits par millimètre. Vous pouvez en avoir, voilà. Et ça, en fait, c'est Fraunhofer qui a inventé ça, ces réseaux, qui permettent de disperser la lumière avec une bien meilleure résolution que les prismes. Et qui permet aussi, en fait, de mesurer la longueur d'onde, en fait. De façon beaucoup plus précise. Donc, avec cet outil-là, en fait, à partir de 1820, il y a Herschel qui a vraiment lancé une analyse systématique, en fait, de ce lien entre chimie et lumière. D'ailleurs, maintenant, voilà, je vais brûler telle substance. Qu'est-ce qui se passe? Quel spectre j'obtiens? Et on commence à réaliser, en fait, à faire des mesures à travers toute l'Europe, comme ça, et des mesures qui se recoupent. C'est-à-dire, eh bien, tel élément chimique, en fait, il va avoir tel ray d'émission. On va trouver des longueurs d'onde.
Il va être à telle place dans le spectre.
Exactement, il va être à telle place dans le spectre de l'arc-en-ciel. C'est exactement ça. Et jusqu'en 1860, où là, on a Kirchhoff et Bunsen, qui vraiment commencent à faire le premier catalogue, en fait, d'éléments chimiques et avec leur signature dans le spectre lumineux. Alors là aussi arrive l'idée différentes idées, mais il y a ce qu'on appelle un spectre d'émission et ce qu'on va appeler un spectre d'absorption. Là aussi, il a fallu du temps. Hein. Je ne vous ai pas donné tous les détails de ce cheminement scientifique, mais dans cet intervalle d'environ 50 ans, en fait, puisque ça, on a vraiment commencé ça, enfin, allez, disons, 150 ans, si on commence vraiment avec les couleurs de flamme en 1700, mais disons à partir de 1800 et Fraunhofer, cette découverte, en fait, des différents types de spectres. Donc, un spectre d'émission, c'est quand vous regardez quelque chose qui émet de la lumière. Mais ce quelque chose, ça va être quoi? Si vous regardez, par exemple, si c'est un gaz, vous allez avoir des raies. Si vous excitez ce gaz, en fait, il va émettre de la lumière. Et vous allez avoir donc les raies qui vont être cataloguées, par exemple pour l'hydrogène, etc. etc. Si maintenant vous faites l'inverse, c'est-à-dire vous mettez, par exemple, une source lumineuse derrière un gaz, et bien là, vous allez trouver les mêmes raies, mais en sombre. Donc les raies d'absorption. Et là aussi, il a fallu du temps pour comprendre que les raies d'absorption et les raies d'émission étaient au même endroit et caractérisaient de la même façon un élément chimique, en fait, dans les deux sens. Ouais. Et ça nous amène à 1850, où là, autour de 1850, on a un certain Angelo Secchi, qui lui était le directeur de l'Observatoire de Rome et qui a eu l'idée, en fait, de faire des spectres d'étoiles et d'essayer de les classer. Et en fait, ça a été le premier catalogue des classes spectrales, en fait, 1, 2, 3, 4, qui sont restées depuis. Et qui, en fait, lui, il ne le savait pas, mais correspondent en réalité aussi à la... Ces spectres correspondent aussi à la température de l'étoile. Et donc, il dit sa température, mais a dit aussi, quelque part...
Chaque ray, là, a une température ou c'est encore différent?
Alors,
peut-être c'était coupé.
Non, on peut pas vraiment appeler ça. Enfin,
tu vois, tu disais que l'infrarouge il chauffe.
Ouais.
Et est-ce que
l'infrarouge c'est le rayonnement thermique?
Ouais.
Non, tu peux pas réellement associer une température à. Enfin, oui et non quoi. Ouais. Parce que par exemple, on sait qu'une étoile bleue, elle est plus chaude qu'une étoile rouge. Et que le bleu contient plus d'énergie que le rouge. Donc, quelque part, il y a un lien entre température... Enfin, si on comprend le terme température comme un peu une sorte de synonyme d'énergie, alors oui, tu peux faire un lien.
D'accord.
Mais tu ne peux pas associer à une raie une température en degrés Celsius. Ça ne marche pas.
D'accord. Ouais.
C'est Herschel qui a découvert les infrarouges.
Ok, oui, merci. Ouais. Donc, ouais, oui, donc c'est quand même...
c'est bien plus tard, c'est quand même 1800,
150 ans plus tard.
Ouais. Ouais, c'est ça.
Donc voilà, en tout cas, ce Angelo Secchi qui fait le premier catalogue d'étoiles en fonction de leur spectre. Et puis en 1860, donc 10 ans plus tard, on a William Huggins et sa femme Margaret, qui eux, en faisant aussi des spectres d'étoiles, arrivent à retrouver... En fait, à prouver que les étoiles sont formées des mêmes éléments chimiques que la Terre. C'est-à-dire à retrouver les signatures des éléments chimiques qu'on a autour de nous et qui étaient étudiés en laboratoire, mais dans les étoiles. Et ça, c'est quand même assez fort.
C'est la classe.
Donc de là, bon, évidemment, voilà, la suite, on la connaît, on en parle un peu plus. Mais c'est un peu ça, le cheminement. Donc déjà, il y a un questionnement un peu technologique, de savoir quel dispositif on utilise pour faire ces spectres. Donc maintenant, c'est les réseaux, ça c'est fait. Mais avec le temps, on a réussi, en fait, plus vous arrivez à faire de raies par millimètre, de fentes par millimètre dans un matériau, et plus vous arrivez en fait à avoir des spectres précis, larges et qui vous permettent d'étudier les choses correctement. Donc il y a un truc un peu technologique, et il y a aussi quand même quelque chose de théorique derrière qui s'est développé, parce que après, quand on arrive là, on parle de 1860, mais 1880, si ma mémoire est bonne, c'est Mendeleïev, la classification périodique des éléments.
Ah, je pensais à lui.
Et en fait, là, il y a ce tableau, bon ben, quand même, on a déjà fait des émissions sur Mendeleïev, on a déjà parlé de lui, mais je voudrais quand même rappeler que c'est pas pour rien que ce tableau, il est dans toutes les classes de physique, chimie, dans tous les collèges, au moins en France, et j'imagine ailleurs aussi. Oui, parce que, en fait, dans ce tableau-là, il y a quelque part, il y a 2000 ans d'histoire, de compréhension de la matière autour de nous. C'est-à-dire que... les Grecs avaient fait l'hypothèse de l'atome. Donc ça a bien 2000 ans. Ouais. Où ils avaient dit, voilà, il doit, évidemment qu'ils ne les avaient jamais vus, ces atomes, mais ils avaient dit, on fait l'hypothèse philosophique, en fait, qu'il doit y avoir une espèce de brique infinitésimale qui constitue la matière. Ouais, ouais. Donc, atome, en fait, en grec, ça veut dire qu'il ne peut pas être divisé, qu'il ne peut pas être coupé. Mmh. Et bon, il s'avère que ce n'est pas vrai, puisque l'atome, il est lui-même constitué de choses plus petites, ouais, qui sont les noyaux avec les protons, les neutrons, et puis autour, les électrons. Mais cette idée, en tout cas, d'un constituant de base, celle-là, elle est toujours valable. Même si nous, pour nous, maintenant, ces constituants-là, on les appelle des quarks. Mais cette idée, elle est juste, en fait, ouais, philosophiquement. Donc, eux, ils l'avaient intuité, ça. Et entre le moment où on pense à ça d'un point de vue philosophique et le moment où on est capable de sortir tous les éléments chimiques répertoriés et de les classer, il y a un pas conceptuel qui est phénoménal. Quoi. Et il a fallu 2000 ans pour faire ça. Donc et l'histoire de l'analyse de la lumière, en fait, elle a très fortement contribué à l'élaboration, en fait, du tableau de Mendeleïev et à la connaissance de la matière. Mmh. Alors, ce qui est vraiment intéressant aussi, et ça va ramener un peu aux émissions, les deux dernières là, que j'avais faites, où j'avais parlé, surtout la dernière, j'avais parlé de l'interaction entre les électrons et les photons, donc pour les différents processus, là, l'effet Yarkovsky, la pression de radiation, donc je vous renvoie à tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que Mendeleïev, 1880, la mécanique quantique, elle n'est pas encore vraiment passée par là. On n'a pas encore la compréhension.
Ouais, la longueur d'onde.
On n'est pas loin. Hein. Y a déjà des choses. Mais on n'est pas encore dans la compréhension vraiment de...
Du quantique.
Du quantique, ouais. Et du fait que les électrons ne sont pas n'importe où, ne sont pas répartis n'importe comment, comment ils interagissent avec les photons. Déjà, l'idée du photon, ce n'était pas très clair. Alors, quand même, l'idée du photon, à la base, Descartes, il l'avait eue. Hein. Il avait fait une théorie. Pour lui, il avait déjà théorisé le photon. Mais ensuite, on était parti sur un truc complètement ondulatoire. Et il a fallu, en fait, le retour d'Einstein pour remettre le photon et puis surtout la dualité onde-corpuscule pour nous dire que tout ça, en fait, c'est la même chose. Ouais, la lumière, c'est à la fois une onde, à la fois un photon.
Donc, ça, c'est bien plus tard, non c'est
Non, ça, c'est pas bien. Là, on est en 1880, Mendeleïev, le photon, c'est 1905, 1910.
Oui,
voilà,
oui. Ouais, non, c'est
pas l'effet photoélectrique, c'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel, d'ailleurs, Einstein. Ouais, c'est pour l'effet photoélectrique, c'est pas pour la relativité.
Oui, c'est juste après, quoi.
Et donc voilà, et c'est pour dire que Mendeleïev, lui, c'était un chimiste et que quand il a fait son tableau, en fait, il n'avait pas ces notions de structure électronique, etc. Lui, il a fait un tableau où chaque colonne, en fait, était... En fait, il a classé les éléments en fonction de leur masse, en fait, quelque part. C'est-à-dire du poids de chacun des atomes. Évidemment, il ne pouvait pas peser un atome par un, mais il s'est débrouillé, en fait, pour faire des mesures comme ça. Et aussi, en fait, une colonne dans le tableau correspond à des éléments qui, chimiquement, ont des comportements similaires, des familles, en fait. Mais quand on couple ça, en fait, ensuite, avec la connaissance de la mécanique quantique, on réalise qu'en fait, dans chaque colonne, ces éléments chimiques ont le même nombre d'électrons sur leur couche externe. Et c'est ça qui fait qu'ils interagissent, en fait, de cette façon-là, chimiquement, les uns avec les autres, en fait. Donc, je ne vais pas rentrer plus là-dedans, mais en tout cas, cette spectrométrie, elle a fortement contribué à construire ce tableau, à construire notre connaissance de la matière. Et ensuite, avec la mécanique quantique, tout ça, c'est goupillé. Mais cette historique-là, elle est vraiment importante dans le développement des sciences, en fait, de la physique. Et donc, pour terminer, je fais le lien avec le redshift. Donc, si pour le décalage vers le rouge, quand vous avez, par exemple, un élément type l'hydrogène, dont vous avez des raies d'émission qui sont parfaitement connues, vous faites le spectre d'une galaxie ou d'une étoile, plutôt d'une galaxie, et bien vous allez retrouver l'hydrogène, mais complètement décalé vers le rouge ou même vers les ondes radio. Mais vous allez retrouver, en fait, les mêmes écartements, enfin, c'est une signature, en fait, mais décalée. Et donc, en regardant de combien vous êtes décalé, ben vous avez une mesure de la distance. Le lien entre les deux étant un taux d'expansion de l'univers qu'on a calculé. Voilà. Donc je vous renvoie à ces émissions pour ça. Voilà ce que je voulais vous dire sur la spectrométrie. C'est un vaste sujet et qui en fait qu'on peut ensuite dérouler dans plein de directions. Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais passer la parole à Pierrick. Et donc, tu vas nous raconter ce que c'est que cette rubrique, la cosmomytho-rubrique.
Et ouais, la cosmomytho-rubrique. Eh ben, j'avais envie de vous parler de cosmologie, parce que j'aime bien ça. Donc, la cosmologie, c'est l'étude, on va parler de l'étude du cosmos actuel, l'étude de l'univers, du début de l'univers, de la formation des galaxies, des étoiles, etc., de la matière en général, quoi. Et de faire un lien avec la mythologie et tout ce qui sont les premières... tout ce qui est lié aux premières émotions humaines, je ne sais pas comment dire ça, mais tout ce qui est lié au premier...
La peur.
Par exemple. Non, mais il y a toujours un lien avec ces premières idées de religion, un peu, de choses qui sont des débuts de l'humanité. Et il regardait un peu les astres aussi, et il y a plein de choses qui transparaissent à ce niveau-là. Donc j'avais envie de faire des liens entre... Ça porte un nom un peu, c'est la cosmogonie. Donc cosmogonie, c'est plutôt l'étude qui a... l'histoire qui... Le monde a été engendré, du début.
Les mythes de création du monde, ouais.
Voilà, les mythes de création du monde. Donc j'ai envie de lancer cette rubrique parce qu'il y a énormément d'histoires différentes selon les époques et les gens. On pense qu'il y a aujourd'hui, on a plus de 55 000 histoires différentes de création, de naissance du monde, de plus de 2000 groupes ethniques différents.
Il n'y en a peut-être même pas une qui est vraie. Et sur les 55 000.
Non, il n'y en a pas une qui est vraie, mais il y a toujours.
J'inclus la nôtre avec.
Hein. Ouais, la cosmologie est-elle une cosmogonie?
Oui,
c'est ça.
Question,
peut, hein.
question.
Donc, autant vous dire que des émissions, il va y en avoir.
55 000, ouais, c'est parti pour un bon cycle. Mais...
Non, mais voilà, j'aime bien de voir un peu. Finalement, on a du mal, même nos langues parlées, on ne sait pas forcément d'où elles viennent. On remonte jusqu'au néolithique, il y a 10 000 ans. Et avant, on ne sait pas trop. Et par contre, les mythes, eux, ils sont beaucoup plus vieux. Les mythes, ils ont été. Répandu, enfin transmis oralement depuis beaucoup plus longtemps que ça, et ils ont été déformés certes, mais de manière plus faible, je pense. Et donc, en parlant des mythes, on parle aussi des étoiles. Par exemple, si je prends les Pléiades, au début, il y a 100 000 ans, on voyait 7 étoiles à l'œil nu, alors qu'aujourd'hui, on peut en voir 6.
Ah bon?
Parce qu'à l'époque, il y en a qui étaient séparés, il y a 100 000 ans, par exemple. Et il y a des mythes où ils parlent de sept femmes qui représentent les Pléiades. Et ça transparaît dans plusieurs générations. Par exemple, les aborigènes, ils parlent de ça, de 7 femmes, et les Grecs aussi. Donc, tu vois, alors qu'ils ne les voyaient plus. Enfin, il y a des choses qui sont restées. Ça, c'est des spéculations, hein. C'est tout théorique, bien sûr. Mais en tout cas, il y a des spéculations qui font que ça traverse le temps depuis très très longtemps, tous ces mythes.
Ouais, mais chez les Grecs, c'est les 7 muses, les
oui.
Pléiades.
Oui, oui.
Enfin, les 5 muses et 2 et leurs 2 parents, je crois.
Alors, je sais
pas. Il y a Atlas et Pléion dedans, c'est les parents. Et puis les autres. Et chez les Anglais aussi, dans les langues anglaises, les Pléiades s'appellent les Seven Sisters.
Ah oui, exact. Donc voilà, c'est tous ces liens-là qu'il y a avec les étoiles et la mythologie. Et du coup, c'est très très ancien. Alors, on remonte vraiment au premier fondement de l'humanité.
Au commencement était le Verbe.
Ouais, hein, c'est un peu ça. Donc on sort un petit peu de l'astronomie, mais bon. On a toujours un lien. Par exemple, si on pense que l'Homo sapiens est apparu il y a 300 000 ans en Afrique, Donc l'homo sapiens, c'est nous, hein, je le rappelle, avec le même cerveau, tout pareil, pas la même connaissance, mais en tout cas, on était les mêmes. Et qu'il a commencé à sortir de
l'Afrique. Nous, on a des casques coloniaux, eux, ils n'en ont pas. Il faut faire la différence, quand même.
Et ils ont commencé à sortir de l'Afrique il y a 100 000 ans, et ils sont allés d'abord en Australie. Parce qu'à l'époque, c'était une grosse période de glaciation, donc l'Europe était complètement gelée. Donc au lieu d'aller s'embêter où il fait très froid, ils sont allés au soleil et ils sont allés en Australie. Et après, ils ne sont pas sortis d'Australie, par exemple. Ils sont restés en Australie. C'est vrai que les aborigènes ont une très vieille culture,
c'est
plein de mythologie qui n'a pas bougé depuis...
Oui, c'est très préservé.
Ouais, depuis cette époque. Et c'est après, quand il y a eu des réchauffements, que l'Homo sapiens est allé s'installer en Europe. Donc voilà, il y a une espèce de diffusion mondiale de l'être humain qui est parti a priori d'Afrique pour aller d'abord en Australie, puis s'étendre jusqu'en Amérique du Nord, puis Amérique du Sud, puis en Europe. Et aussi dans les îles du Pacifique. Là aussi, il y a des très vieilles mythologies qui sont restées les mêmes depuis extrêmement longtemps. Et ça s'est affiné ces derniers temps sur l'étude des étoiles, avec notamment le satellite Gaïa, qui n'est plus en activité, mais qui a fait un grand recensement des étoiles.
Oui, j'en ai parlé brièvement dans la dernière mission, je crois.
Ah ouais, qui a fait un gros catalogue de référencement des étoiles, de distance,
de mouvement.
De mouvement. Et ils arrivent à remonter, à faire des projections sur la place des étoiles avant. Par exemple, il y a 300 000 ans, où était Orion, où étaient les Pléiades. Et donc, en faisant des liens comme ça avec les positions des étoiles, les histoires, les légendes et la cosmologie de l'époque, on arrive à retrouver des choses.
Mais c'est aussi un peu l'objet d'étude de l'archéoastronomie. Au final,
ça a aussi un lien avec ça.
Je pensais à ça.
Tu es venu nous parler.
Vincent.
Vincent,
oui. Oui, j'ai repensé à cette histoire qui nous avait parlé des Dogons.
Les Dogons,
Voilà, il y a aussi un lien avec ça.
Alors, j'ai relu des trucs sur les Dogons.
Moi aussi,
c'est peut-être un peu trop fantasmé l'histoire qu'ils aient vu Sirius B, machin.
Il y a une histoire comme quoi ils en auraient parlé à quelqu'un qui leur aurait expliqué qu'il y avait en fait deux Sirius, machin, et eux, ils ont retransmis ça à l'oral. Et quand on est revenu les voir 10 ans plus tard,
Ah, mais vous savez ça. Ouais. Ils ont oublié de dire qu'ils ont eu un astronome chez eux pendant 10 ans, un astronome anglais qui a vécu avec eux pendant un moment et qui leur a expliqué plein de choses.
Ouais. Mais bon, on ne saura jamais finalement. Mais voilà. En tout cas, voilà. Et moi, ce que j'aimerais faire aussi des liens avec la cosmologie, parce qu'il y a toujours des liens dans la Bible, il y a plein de choses, dans le Coran aussi. Il y a tout plein de phrases qui font penser, et notamment dans la Bible, et la lumière fut, quand un peu le monde, l'univers s'éclaire avec il y a plein de liens qu'on peut faire comme ça. Fred t'en parlait aussi. Il y a le Om hindou.
Qu'on peut éventuellement, si on a envie, on peut relier au fond diffus cosmologique.
Voilà.
Donc c'est un peu ce que tu disais, et la lumière fut, quoi.
En
cosmologie, on dit le moment où l'univers est devenu transparent, où en fait il s'est suffisamment refroidi pour que les photons puissent. Puisse circuler sans être recapté directement par quelque chose. En fait, il faut que ce soit suffisamment peu dense pour que les photons puissent circuler et donc on peut voir. Sinon, en fait, les photons sont réabsorbés directement parce qu'il y a trop de matière autour. Oui, il y a plein de choses, c'est sûr. D'ailleurs, dans le Coran, au passage, il y a une mention là où Dieu est appelé le Seigneur de Sirius. Ça, c'est un truc que j'ai retrouvé très mystérieux, quoi. Lord of Sirius.
Ah ouais. Je sais pas. En tout cas, il y a aussi plein de récits, on dirait de la science-fiction. Il y a des récits, ils sont incroyables, quoi. T'as l'impression de lire un bouquin de SF, quoi. Alors que c'est les dieux qui font la guerre, qui changent de planète, qui veulent terraformer leur planète, qui cherchent de. qui cherchent de l'or sur la Terre, du coup qui exploitent les... Enfin, y a, même sur les origines de l'être humain, enfin, c'est assez intéressant.
Après, des fois, c'est l'inverse aussi. Quand tu regardes les histoires des dieux grecs, tu as l'impression d'être dans un village. Hein, tu vois ce que je veux dire? Les histoires de coucherie, de jalousie, de machin. Oui. Et tu dis, ah, bah, d'accord, les dieux, en fait.
Et comme on a appelé tout ce qu'il y a dans le ciel par des noms de dieux et de religions, savoir à quoi on fait référence à chaque fois qu'on parle en fait d'étoiles et de tout ça, c'est lié. Donc voilà, ça va être cette nouvelle rubrique.
Ok, donc c'était la séance introductive aujourd'hui.
Voilà.
Ça marche.
Cosmo-mytho-rubrique.
Ouais, ou mytho-cosmos. On verra.
Yes. Merci Pierrick, merci Fred aussi.
Merci à vous.
Et merci aux auditeurs d'Erdiwa qui nous sont fidèles.
Qui nous écoutent. Ouais. Fidèles, ça on sait pas.
Si, si, ils n'ont pas le choix.
En tout cas, on espère que vous avez pris plaisir à écouter cette émission. Et on vous souhaite de belles observations. À la semaine prochaine.
Ciao.
Au revoir.